Emmaüs racontait aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. » En commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Eh bien, chers frères, durant tout ce temps pascal, nous méditons les différents récits des apparitions de Jésus ressuscité à ses apôtres et à de nombreux disciples. C'est effectivement là le cœur de notre foi, la source de notre espérance, la raison de notre charité. Jésus-Christ est sorti vainqueur du tombeau avec son corps et son âme. Il est désormais vivant et il intercède pour nous auprès de son Père. Nous venons d'entendre Saint Jean. Nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. L'intercession du Christ, notre grand prêtre et notre avocat, est toute puissante sur le cœur de Dieu. Quel est donc le fruit, l'objet de son intercession? Il nous suffit de nous rappeler, de relire les paroles qu'il adressa à Dieu dans la grande prière qu'il prononça au soir du jeudi saint et que l'évangéliste Saint Jean nous a fidèlement rapporté. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Notre vocation est bien de voir, de contempler la gloire de Dieu. C'est là le plus grand bonheur qui soit, c'est là notre destinée, c'est-à-dire le projet de Dieu sur chaque homme. C'est cette espérance qui doit orienter toute notre vie, la nôtre et celle de tous nos frères. C'est elle qui sauve toutes les organisations sociales et politiques de la tentation d'asservir l'homme, parce qu'elle leur rappelle cette espérance que l'homme justement n'appartient qu'à Dieu seul, et que tout ce qui est créé doit être mis à sa disposition pour lui permettre justement de parvenir à ce but. La qualité des civilisations et des cultures se mesure à leur capacité à rendre compte de cette vocation surnaturelle de l'homme, même s'il revient à l'Église, de mettre effectivement à la disposition de chacun les moyens nécessaires pour être sauvés. En effet, les apôtres sont établis par Jésus-Christ lui-même, témoins de sa résurrection. C'est ainsi qu'ils pourront annoncer au monde entier la conversion et le pardon des péchés. De fait, depuis près de 2000 ans, l'Église est restée fidèle à sa vocation fondamentale. annoncer le salut et le manifester, c'est-à-dire le réaliser, par la célébration des sacrements. Mais la résurrection du Christ est aussi la ferme promesse de notre propre résurrection. Si nous sommes sauvés, c'est corps et âme. Notre corps est partie intégrante de notre personne. Et il n'y a pas de personne humaine sans un corps. Si Dieu s'est fait chair, si Jésus avait un corps, c'est bien pour sauver toute notre réalité créée. Être fidèle à la foi chrétienne, ce n'est pas seulement savoir qu'à notre mort, notre âme demeure. Cela, une saine philosophie nous l'apprend et nous le démontre. C'est croire qu'au jour du jugement final, chacun d'entre nous ressuscitera, c'est-à-dire que notre âme assumera et animera à nouveau notre corps, quelle que soit notre destinée finale, la joie du ciel ou les terreurs de l'enfer. Dans l'hypothèse la plus favorable, je veux dire si nous héritons du paradis, alors nous ferons l'expérience d'un supplément, d'une augmentation de joie, parce que sera établie une harmonie parfaite entre l'âme et le corps, celui-ci ne connaissant plus aucune vicissitude de la condition charnelle et terrestre. Le catéchisme romain, on appelle aussi le catéchisme du Concile de Trente, cite ici une page savoureuse et merveilleuse de saint Augustin sur la condition des corps ressuscités et glorifiés. Je cite. Alors, il ne restera rien de défectueux dans le corps. Ceux qui auront trop d'embonpoint et d'obésité, les commentaires, ne reprendront point toute cette masse de chair. Tout ce qui dépassera une juste proportion sera réputé superflu. Au contraire, tout ce que la maladie ou la vieillesse aura détruit dans le corps sera réparé par la vertu divine de Jésus-Christ. Il en sera de même des corps naturellement maigres et décharnés. Non seulement le Seigneur les ressuscitera, mais il leur rendra tout ce que les maux de la vie leur avaient donné. Oui, mes bien chers frères, la résurrection du Christ comme notre propre résurrection, cette double vérité est au cœur, au centre, à la source et au sommet de notre foi chrétienne. Elle fait suite d'ailleurs à une autre vérité fondamentale. Nous contemplons en ce dimanche notre Seigneur qui apparaît à ses disciples dans la gloire de la résurrection, mais qui porte en sa chair glorieuse et pour l'éternité les stigmates, les traces de sa passion douloureuse et bénie. C'est pour nous le rappel que la résurrection charnelle du Christ, comme la résurrection spirituelle de chacun d'entre nous au jour de notre baptême, et chaque fois que nous recevons l'absolution sacramentelle dans le sacrement de la pénitence, que cette résurrection est le fruit de la mort rédemptrice de Jésus en croix. C'est encore saint Jean qui nous le rappelle dans l'extrait de sa lettre que nous venons d'entendre. Jésus-Christ est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. C'est une affirmation fondamentale de notre foi chrétienne. C'est pour nous sauver de nos péchés, pour nous libérer du pouvoir de la mort, pour nous soustraire à la domination du démon, que le Christ est mort. C'est pour nous faire entrer dans son royaume que le Christ est ressuscité. Il y a quelques jours, le président d'une conférence épiscopale d'un pays d'Europe qui nous est proche a affirmé que Jésus n'était pas mort pour nos péchés, mais par solidarité avec les hommes, pour leur manifester sa présence, même dans les moments difficiles de l'existence. C'est une dimension du mystère de la croix qui existe bien réellement, et nous savons quel réconfort nous pouvons tirer de cette vérité dans nos propres souffrances. Cependant, si la croix n'est que cela, alors nous restons enfermés dans une condition tragique qui aboutit à la mort et au désespoir. Pareille défaillance dans la proclamation du mystère de la rédemption manifeste tout à la fois la gravité de la crise doctrinale que traverse l'Église d'Occident aujourd'hui, mais surtout la grave nécessité pour chacun d'entre nous de vivre maintenant vraiment du mystère de la croix glorieuse et vivante.